Donc, je voulais vous parler de, comme c'est le jeudi saint, donc l'institution de l'Eucharistie. Évidemment, nous allons commémorer ça ce soir, notre Seigneur qui dit sa première messe et qui ordonne ses prêtres pour perpétuer la messe jusqu'à la fin des temps. Alors, on parle beaucoup à cet égard de la présence royale, évidemment. La présence royale, c'est quelque chose. Qui est beaucoup plus, qui est un terme qui est très développé en parlant de la messe. Attendez juste 2 secondes. Donc, je disais qu'on parle beaucoup de la présence réelle, et évidemment, c'est très important, surtout depuis donc, le Concile de Trente, donc, quand il fallait combattre les erreurs des protestants, qui tous nient donc, la présence réelle. Mais en fait, notre idée de l'Eucharistie serait en fait incomplète. Si on s'arrêtait là, parce qu'il y a 2 aspects de l'Eucharistie. L'Eucharistie est un sacrement, donc c'est le signe, c'est un signe, et c'est la présence réelle de Jésus sur l'autel, mais il y a aussi l'aspect de sacrifice. Monsieur Lefebvre, dans ses conférences spirituelles, souvent, il remarquait que c'était justement un aspect très négligé. Et que c'est pour cela qu'on a pu, justement, aussi facilement éloigner les gens de la messe, détruire la messe après Vatican II, parce qu'on n'avait pas suffisamment instruit les fidèles sur cette notion de sacrifice, que la messe, c'est vraiment le sacrifice du calvaire qui se perpétue. Oui, notre Seigneur a voulu que le sacrement, donc sacrement et sacrifice, mais il a voulu que ce sacrement de son corps soit accompli dans un contexte très précis. Donc, notre Seigneur se rend présent sur l'autel en se sacrifiant, en renouvelant son sacrifice. Et il importe de voir le lien entre les 2 aspects. On peut comprendre l'Eucharistie, puis surtout pour comprendre le but qu'avait notre Seigneur en l'instituant, et c'est-à-dire l'usage dont nous devons en faire. Parce que ce n'est pas seulement pour adorer notre Seigneur présent dans un ostensoir, par exemple, au salut, ni même de l'adorer après l'avoir reçu dans l'hostie, en nous-mêmes, c'est plus que ça. Donc, et d'ailleurs, justement, en fait, la présence réelle n'est même pas le terme de ce sacrement. Ce qu'on appelle la réalité du sacrement. Soit que, vous savez, donc, un sacrement, c'est un signe qui signifie autre chose. Et la réalité qui est signifiée au plus profond de ce sacrement, en fait, ce n'est pas la présence réelle. On ne s'arrête pas là. On va le voir, mais le pain et le vin. Wow. Ce qui était le pain et le vin, les apparences du pain et du vin, signifient la présence réelle, le corps physique de Jésus, mais cela, à son tour, signifie autre chose. L'Eucharistie nous porte à quelque chose d'autre. Alors, la meilleure façon d'exposer tout cela, c'est par les paroles de la consécration, c'est les paroles de la forme de ce sacrement, parce que c'est justement. Les paroles de la forme qui donnent le sens dans le sacrement. Les paroles de la forme dans le sacrement signifient ce qu'elles accomplissent et elles accomplissent ce qu'elles signifient. Donc nous allons voir donc, toutes les paroles de la consécration. Alors évidemment, on va s'arrêter plus sur les paroles que le prêtre prononce sur le vin. Parce que c'est ça qui achève vraiment le sacrifice. Si un prêtre ne consacrait que l'hostie, donc ça ne serait pas vraiment ne consacrait que le pain, ça ne serait pas une messe, ça ne serait pas un sacrifice, ça serait un sacrilège s'il le faisait exprès. Et d'ailleurs, ça ne serait peut-être même pas valide s'il le faisait exprès. Hein, ça dépend. Ça, c'est une autre question, c'est la question de l'intention. Oui, donc on va voir les paroles de la consécration du vin et toutes les paroles. Parce que selon Saint Thomas, Saint Alphonse Liguori, Saint Pie V, le catéchisme du Concile de Trente, selon ses autorités, c'est tous les parents qui sont nécessaires. Il ne suffit pas de dire ceci est le calice de mon sang. Ça ne suffirait pas. Bah, d'après cette opinion théologique, ça n'a jamais été défini par l'Église, mais non, moi personnellement, je tiens cette opinion et avec saint Thomas, et je pense que je suis en bonne compagnie. Et donc, selon cette opinion, ça ne serait pas une messe valide. Alors, justement, il y a une dispute qui date. Évidemment, il y a les deux opinions ont toujours existé. L'opinion selon laquelle la forme courte suffit et l'autre de saint Thomas que la forme longue est nécessaire. Mais ça a été beaucoup plus disputé. C'est au temps moderne. Et maintenant, ce n'est plus une question de disputes théologiques, académiques dans les séminaires, dans une université. Ça a des conséquences très, très concrètes dans ce qui concerne les traductions. Je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est évidemment très important. Si vous modifiez la signification des paroles de la consécration qui suivent les mots associés à le calice de mon sang, vous risquez fortement invalider la messe donc dans les nouvelles traductions. Mais moi, je parle de la forme traditionnelle. Saint Thomas tient que toutes les paroles sont nécessaires parce qu'elles déterminent le début de la phrase. Ceci est le calice de mon sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la nouvelle et éternelle alliance qui sera répandue pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Tout ça est nécessaire pour un... Et justement, on va voir que le sens de ce sacrement est très très riche. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont dites, évidemment, qui sont signifiées par ces paroles. Alors, d'abord, quelques petits rappels sur les sacrements. Un sacrement, c'est un signe visible institué par le Christ pour produire la grâce. Donc, c'est un signe visible, quelque chose qu'on peut percevoir avec les sens. Et évidemment, on est institué par notre Seigneur Jésus-Christ pour produire la grâce qui, elle, est invisible. Il y a un côté visible et un invisible. Ce signe est composé de deux parties, matière et forme. La matière, c'est un élément sensible, comme l'eau pour le baptême, le Saint-Crème pour la confirmation, le pain et le vin pour la messe. Et les formes, la forme, c'est les paroles, c'est aussi quelque chose de sensible, parce que nous parlons toujours de ce signe visible, donc c'est une partie qu'on peut, tout ce qui peut être perçu par les sens. Et ce sont les paroles qui précisent la signification de la matière, parce que, par exemple, pour le baptême, on peut utiliser l'eau pour plein de choses, pour se rafraîchir, pour laver, ou autre chose, et il faut les paroles qui déterminent le sens. Mais ce signe visible n'est qu'un élément du sacrement. Il y a trois éléments dans un sacrement. Comme mon auteur les appelle les trois pierres d'angle. Alors vous avez un élément qui est le signe. Donc c'est ce qu'on vient de voir, la matière et la forme. Et c'est seulement un signe. Ça va signifier autre chose. Là, vous allez avoir une réalité qui est signifiée, mais une réalité intermédiaire. Ça ne finit pas là. Intermédiaire. Et donc, il est à son tour signe d'un troisième élément. Et qui, lui, sera une réalité seulement. Donc, seulement réalité. Et en fait, ce qui est signe seulement, il va signifier cette réalité au terme du processus à travers la réalité intermédiaire, qui est lui aussi un signe, mais aussi directement. Ça c'est assez important à savoir pour la suite. Mais c'est ça le but c'est l'effet, on appelle ça aussi la grâce propre de chaque sacrement. Tout va converger vers ça. Donc le signe seulement, il a un rôle actif, c'est de signifier les deux autres réalités. Et il consiste en deux parties, la matière et les formes, qui doivent être unies moralement, donc faites ensemble. Et alors ensuite, le signe et réalité, enfin, la réalité et puis signe à son tour, a à la fois un rôle passif et actif. Il est signifié et il signifie autre chose. Il est signifié par le signe seulement et il va signifier la réalité seulement. Il a une différence avec le premier signe. Le premier élément qui est signe seulement, il est perceptible par les sens. Donc, comme on l'avait dit, c'est la matière avec la forme. Mais ce deuxième élément qui est désigné par le premier signe et qui doit signifier quelque chose ensuite, est silencieux. Il ne signifie que par sa présence. Il n'a pas de forme qui va avec. Et puis à la fin, vous avez la réalité qui est seulement réalité. Il est signifié deux fois, une fois par la réalité, par le signe seulement, et puis aussi par la réalité et signe. Donc, par exemple, pour le baptême, le signe seulement, ça serait l'eau qui coule sur le baptisé avec les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ce signe va signifier quelque chose d'invisible qui est dans l'âme désormais de se baptiser, c'est le caractère du chrétien. Ce caractère qui est ineffaçable sur son âme, et c'est ce caractère qui va à son tour signifier que cette âme est justifiée intérieurement. Elle est devenue donc, l'enfant de Dieu, héritier de la grâce, etc. Héritier du ciel. Pour l'Eucharistie, le signe seulement, c'est le pain et le vin consacrés. Donc c'est le pain puis le vin avec les paroles de la consécration. Ce signe va signifier la présence réelle, donc le vrai corps de Jésus. C'est la réalité en haut, le deuxième. Jésus réellement présent physiquement avec son corps qui est né la Vierge Marie, qui est maintenant glorieux au ciel et qui est là, on ne le voit pas, mais ce corps réel de Jésus va signifier une troisième chose qui est, c'est ça le but du sacrement, le corps mystique du Christ. C'est-à-dire nous tous, donc nous tous qui sommes membres de l'Église par le baptême et qui sont unis entre nous par la grâce et unis d'abord à notre Seigneur, notre chef, par la grâce et puis entre nous. Mais comme dit Monseigneur Anger, tout ce qui touche l'Eucharistie nous mène au corps mystique. Donc ça va peut-être vous choquer, mais il ne faut pas s'arrêter sur la présence réelle. Ça c'est... on ne peut pas dire que c'est un instrument pour l'Eucharistie, c'est quand même notre Seigneur lui-même qui est la source de tout. Mais cette présence réelle de notre Seigneur n'est là que pour nous amener à cette unité dans son corps mystique. C'est ça le but, c'est ça l'effet de ce sacrement. C'est pour ça qu'il a institué. Il n'a pas institué l'Eucharistie uniquement pour être adoré dans un ostensoir. Le but, c'est vraiment l'unité. C'est ça le terme précis, c'est-à-dire l'unité du corps mystique du Christ. Et on voit que cette unité du corps mystique du Christ est déjà signifié par la double matière du pain et du vin, parce que le pain est composé de plusieurs grains de blé qui sont broyés, qui forment ensemble un seul pain, et le vin c'est pareil, avec les raisins. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est surtout ça dont je voulais vous parler, c'est comment tout cela est représenté par la forme. Alors évidemment, la forme ne va pas signifier que le corps mystique du Christ. Il y a plusieurs choses dans la forme qui doivent être signifiées, mais si on utilise une forme qui ne signifie en aucune manière l'unité du corps mystique du Christ, la messe ne serait pas valide. Alors, les paroles de la consécration. Donc, ceci est le calice de mon sang, de la nouvelle et éternelle alliance, un testament, mystère de la foi, qui sera répandu pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Donc, vous allez voir, il y a quatre choses qui sont signifiées par ces paroles et qui doivent toutes être présentes dans les formes de la consécration. Ces choses sont présentes, ces quatre choses qu'on va voir sont présentes dans tous les rites catholiques, les Byzantins, les Arméniens, les Coptes, etc., les Chaldéens. Alors, la première chose, donc, c'est la transsubstantiation, c'est-à-dire le fait qu'on va rendre présent le corps réel de Jésus-Christ. Et cela est désigné, alors je dis bien désigné, mais pas accompli, selon saint Thomas, par les mots « ceci est le calice de mon sang ». Donc là, ça désigne la transsubstantiation, la présence réelle, mais s'il s'arrête là, ça ne serait pas encore accompli. Il faut qu'il aille jusqu'à la fin de la phrase pour déterminer ce que ça veut dire. Alors, deuxième idée qu'il présente, c'est l'idée de propitiation. C'est désigné par les mots « nouvelle et éternelle alliance », « testament », et puis les mots à la fin « en rémission des péchés ». Alors, il faut préciser qu'il s'agit d'une nouvelle alliance, parce que les sacrifices de l'Ancien Testament n'avaient aucun réel pouvoir pour remettre des péchés. Tout ça, c'était des symboles pour aider la foi des Hébreux à l'époque, pour se justifier en par l'acte de foi, mais en eux-mêmes, le sang des boucs et des taureaux n'avait aucune valeur. Et puis donc, les mots « en rémission des péchés ». Alors, pour aussi important que ce soit-il, donc cette idée de propitiation, c'est quand même pas l'effet principal de ce sacrement non plus. C'est ce que dit le Concile de Trente. On n'est pas encore à l'effet principal. Mais c'est quand même surprenant. Donc, la transsubstantiation et la propitiation, donc ces deux aspects de sacrement et de sacrifice, ne représentent pas le tout. Ça reste incomplet si on s'arrête là. Troisième notion, là c'est plus explicitement la notion de sacrifice. Sacrifice qui est désigné par les paroles répandu, qui sera répandu. Et c'est très important parce que notre Seigneur a voulu, disons, tout cela c'est l'institution divine, Jésus a voulu se rendre présent, mais dans un contexte de sacrifice. Il aurait pu très bien, dans sa toute-puissance, donner aux prêtres le pouvoir de le rendre présent dans du pain pour être l'objet de l'adoration des fidèles ou autre chose, et en point c'est tout. Mais il a voulu qu'il soit présent en renouvelant son sacrifice. Et il y a un petit détail, donc dans le latin, bon, évidemment c'est hic est calix meus, et à la bon, en fait je ne vais pas rentrer dans les détails grammaticaux, mais il y a une ambiguïté quand on dit à la fin qui sera répandu pour vous et pour beaucoup. Alors ça peut, le sujet du verbe répandu peut être soit sang, soit calice. Alors, selon Saint-Luc, justement, donc dans la version que donne Saint-Luc, c'est le calice, en fait, qui sera répandu. Et non pas le sang. Ouais, c'est-à-dire, oui, le sang, mais en tant que le sang est dans le calice. Alors, vous allez me dire, si ça revient au même, parce qu'évidemment, si on dit que le calice est répandu, on parle du calice en tant que contenant du sang. C'est évidemment, le sens est le même, que c'est le sang qui est répandu. Mais en fait, je suis tombé sur des controverses à l'époque du Concile de Vatican, du Concile de Trente. Et en fait, c'est assez important de maintenir, en tout cas de ne pas exclure par principe, le fait que ce soit le calice dont on parle. Parce que ça veut dire que le calice à la messe est propitiatoire. C'est ça, le sacrifice s'accomplit dans le calice. Et non seulement sur l'hôtel. Il y avait des protestants, surtout Théodore de Bèze, qui avait carrément dit que Saint-Luc ne connaît pas assez bien le grec, que l'évangile de Saint-Luc était dans un grec parfait, et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a fait un solécisme en ne raccordant pas comme il fallait le verbe avec le sujet, etc. Mais Saint-Luc savait très bien ce qu'il disait. Il voulait dire que c'est le calice qui a à la messe, que le sang de Jésus est répandu pour nous sauver, non seulement sur la croix, mais dans le calice à la messe. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mais, alors, c'est le Père Louis-Marie m'avait fait remarquer, c'est toujours très, très amusant de voir les protestants qui insistent beaucoup sur l'écriture. Il faut coller exactement ce qu'il dit de l'écriture. Et ils ne se gênent pas pour dire que Saint-Luc s'est trompé. Et il voulait dire, il ne voulait pas parler du calice. Mais bon, ce n'est pas une hérésie de parce qu'il y a quelques traductions. Quand ils traduisent calix par coupe et par calice, le mot devient féminin. Et donc, il n'y a plus de. Donc, ils doivent choisir quand ils disent répondu. S'ils mettent un E à la fin, ils parlent de la coupe. Et s'ils ne mettent pas de E, ils parlent du sang. Mais bon, ça revient au même en soi. Mais il faut juste savoir qu'il y a quand même une petite nuance qui est importante. Alors, donc, quatrième chose, c'est la fin, justement, c'est l'unité du corps mystique du Christ. Et ça, c'est désigné par les mots pour vous et pour beaucoup, et puis aussi par les mots en rémission des péchés. C'est là le but et la fin du sacrement, donc selon le Concile de Trente, le catéchisme du Concile de Trente. Et le Concile de Florence l'appelle la grâce propre, l'effet du sacrement, la réalité du sacrement, c'est-à-dire le troisième élément, là, la réalité tout court. Et donc, ce sont là les mots clés pour déterminer la signification. C'est pour ça que c'est absolument incroyable qu'il puisse changer pour vous en pour tous dans les traductions. Parce que ça change complètement le sens. Quand on dit, d'ailleurs, ils étaient obligés de changer la fin aussi. Quand ils ont changé pour vous en pour tous, c'est pas faux de dire que Jésus a répandu son sang pour tous. Mais en ce cas-là, il faudrait changer la fin, non pas en rémission des péchés, parce que si vous dites en rémission, ça veut dire qu'effectivement, ils ont eu la rémission de leurs péchés. Là, il n'y a que beaucoup qui ont eu ça. Pas tous. Il a répandu son sang pour tous, pour que tous aient la possibilité d'avoir le péché remis. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé, ça varie son introduction, mais il disait pour tous, en vue de la remission des péchés, ou pour la remission des péchés, mais c'est pas la même chose que de dire en remission des péchés. En tout cas, ce sont des paroles qui désigne pour quel but le pain et le vin devient le corps et le sang du Christ. Donc justement, comme on a vu, que les paroles de la forme doivent désigner, spécifier un peu l'usage de la chose. C'est même, il doit spécifier pourquoi cette réalité intermédiaire est là, pourquoi le corps réel de Jésus est et rendu présent sur la terre. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? C'est pour établir l'unité des membres du corps mystique. Parce que ces mots, vous et beaucoup, sont les seuls mots dans la forme qui désignent les membres de l'Église. Ah oui, et c'est ça, il faut que je vous explique ça quand même. Parce que j'ai dit aussi que les mots en rémission des péchés désignent cette unité du corps mystique du Christ. Comment? Parce que il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on entre dans le corps mystique du Christ? En fait, c'est par le baptême. C'est par la rémission de nos péchés, par le baptême, en étant lavé dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on devient membre. Tous les autres ne sont pas membres de l'Église. Et puis ensuite, si on a fait un péché mortel, c'est par le sacrement de la pénitence. C'est en se lavant dans le sang de Jésus-Christ, dans le confessionnal. Et donc, en fait, en rémission, désigne la porte, l'entrée dans le corps mystique de Jésus. Ces quatre éléments donc, sont présents dans toutes les liturgies, comme je vous ai dit, je vais vous lire un peu. Dans la liturgie byzantine, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour beaucoup en remission des péchés. Donc, chez les Arméniens, ceci est le sang de le Nouveau Testament, du Nouveau Testament, pardon, qui est répandu pour vous et pour beaucoup pour l'expiation et le pardon des péchés. Chez les Coptes, car ceci est le sang du Nouveau Testament qui sera répandu pour vous et pour beaucoup en pardon des péchés, en remission des péchés. Je dois traduire parce qu'en fait, je n'ai qu'en anglais. Chez les Éthiopiens, ceci est le sang du Nouveau Testament qui est répandu pour vous et pour beaucoup en remission des péchés. Bon, c'est pareil, chez les Syriens, les Chaldéens et puis les Malabars, etc. Alors, j'ai sauté les mots mystère de foi, mystère de la foi, qui justement ne sont pas présents dans les autres liturgies. Alors, saint Thomas maintient quand même que ces paroles, cette incise, est quand même nécessaire pour la forme dans le rite romain. Et ça se peut. Il n'est pas exclu que des paroles, que certaines paroles soient nécessaires dans un rite et pas dans un autre. Pourvu que les quatre choses que je, en parlant de l'Eucharistie en tout cas, que les quatre choses que j'ai énumérées juste avant soient présentes. Le mystère de la foi ne fait que répéter des choses qui ont été déjà dites, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont redondants. Le pape Innocent III, le catéchisme du Concile de Trente, Saint Thomas, etc., d'autres autorités très, très grandes maintiennent qu'ils sont quand même, ça fait partie de la ils sont nécessaires, parce qu'ils sont d'institutions divines. Et donc, ce mot mystère de la foi, selon le catéchisme du Concile de Trente, désigne non seulement la présence réelle, donc le mystère de la foi, mais aussi le mystère de la rédemption, justement, le fait que Jésus ait répandu son sang pour nous, ce qui est un mystère incompréhensible pour les hommes, comment Dieu puisse nous aimer autant. Et une idée, bon, ça serait jamais prouvé, hein, mais si jamais notre Seigneur a voulu vraiment que ces paroles soient présentes de nécessité dans notre rite, dans le rite romain, et pas dans les rites de l'Église, des Églises de l'Orient, c'est peut-être parce que c'est que dans l'Ouest, dans l'Église d'Occident, ou presque, que ce dogme de la présence réelle a été combattu. Vraiment virulemment combattu à plusieurs époques, alors que chez les Grecs, ça n'a jamais vraiment... Il y avait un théologien, à un moment, je crois que c'était à la Renaissance, peut-être d'ailleurs à cause des contacts avec l'Église occidentale, qui a nié, mais c'était vraiment une hérésie de très courte vie, et ça... normalement, dans les églises de l'Orient, ils n'ont jamais, jamais douté de la présence réelle. Donc, ça peut être une raison pourquoi ce n'est pas dans le rite et de nécessité. Alors, quelle est la conclusion pratique de cela? Donc, il faut nous rappeler que le but de l'Eucharistie, c'est l'unité du corps mystique du Christ. Le corps mystique du Christ est vraiment le grand oublié d'aujourd'hui dans notre société individualiste. Mais même, il y a des personnes qui s'illusionnent, qui pensent qu'ils sont très pieux et très fervents, en restant tout enfermés sur eux-mêmes, en ayant une piété trop individualiste, en oubliant que le but, c'est de pratiquer la charité et de chercher le bien commun et d'œuvrer pour l'unité du corps mystique du Fils, chacun à sa place. Donc, la communion doit avoir ça en vue. Donc, Saint Thomas, quand il parle des communions sacrilèges, il explique pourquoi c'est un péché. De recevoir du sacrement du Christ, tout en sachant qu'on est en état de grâce, qu'on est un membre mort du corps mystique du Christ, c'est un mensonge. Parce qu'on n'est pas uni aux autres par la grâce, et on ne devrait pas recevoir ce sacrement de l'unité du corps mystique. C'est pour ça, la raison profonde. C'est toujours par rapport au corps mystique du Christ. Et Saint Augustin, quand il connaissait la citation assez connue de Saint Augustin, quand il a entendu Jésus qui lui parlait, quand il a reçu la communion, Jésus qui lui dit, ce n'est pas toi qui me manges, c'est moi qui te mange, en fait, dans l'Eucharistie. Et c'est vrai, en fait, c'est Jésus en son corps mystique. C'est-à-dire, donc, c'est pas nous. Si c'est nous qui mangeons quelque chose, il y a nous, notre corps. On prend un petit hostie et on l'absorbe et cette hostie devient une partie de notre corps. En fait, c'est pas vraiment ça au niveau spirituel. C'est le corps mystique du Christ qui nous mange et qui nous absorbe dans son corps, dans son corps mystique, pour le faire grandir, pour le nourrir, pour ajouter à sa vie, etc. C'est tout à fait l'inverse. Et ça change tout pour ton communion dans cet aspect-là. Donc voilà, en fait, c'est juste ça que je voulais vous dire ce soir.